Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Elles s'appellent médecine douce, alternative ou parallèle, et elles sont très sollicitées. Leur but, soigner sans molécules chimiques, homéopathes, acupuncteurs, ostéopathes. Les consultations explosent en France. Une estimation nationale récente affirme qu'au moins un Français sur deux a déjà eu recours à l'un de ces trois spécialistes au cours de l'année passée. Un succès qui pousse même les mutuelles à commencer à prendre en charge ces alternatives à la médecine traditionnelle. Face à cet engouement, quel regard porter sur ces médecines alternatives ? Foi et médecines alternatives sont-elles compatibles ? Comment analyser ces médecines à la lumière de la Bible ? On va parler de ce vaste sujet cette semaine avec le docteur Denis Blum, médecin généraliste. Bonjour.
Bonjour.
Alors les médecines alternatives, tout le monde en parle, mais de quoi s'agit-il exactement, docteur ?
Bien, pour les définir simplement, on pourrait dire que c'est tout ce qui n'est pas la médecine classique qui est enseignée à l'université. Ce serait la manière la plus simple de les définir. En fait, c'est toutes les médecines qui n'utilisent peut-être pas les moyens diagnostiques que l'on peut avoir en médecine universitaire, que ce soit en termes de prise de sang, d'imagerie, et en termes thérapeutiques qui ne vont pas nécessairement avoir recours à des médicaments.
Quelles sont les différences principales ? On a commencé à en parler, donc pas de médicaments, finalement, avec la médecine traditionnelle. Et pourquoi est-ce que, c'est peut-être là d'ailleurs plus le cœur de la question, pourquoi est-ce que ces médecines parallèles plaisent tant aux Français aujourd'hui ?
On aime ce qui est peut-être plus naturel que la médecine classique qui est chimique. On aime également l'idée que ces médecines proposent d'aller souvent plus loin que la médecine classique, qui a des limites, il est vrai, il faut le reconnaître. Et puis ce sont des médecines souvent qui proposent une approche beaucoup plus globale de la maladie, de l'être humain, en intégrant la composante physique, émotionnelle, sociale, spirituelle. Et elles se proposent également une prise en charge beaucoup plus individuelle peut-être.
Aujourd'hui, quelles sont les questions à se poser avant d'avoir recours à une médecine alternative ?
Eh bien, chaque médecine est fondée sur des principes qui fondent la manière de la pratiquer. Évidemment, en tant que chrétien, on veut évaluer ces principes à la lumière de la parole de Dieu et voir s'il y a éventuellement une incompatibilité avec la vision biblique du monde, de l'homme, de Dieu. Certaines de ces médecines, d'ailleurs, sont franchement spirituelles. Je pense au chamanisme, au magnétisme. Ce sont des médecines spirituelles. Là, effectivement, cela fait appel à une vision du monde, de l'homme, de Dieu qui ne correspond pas à la vision biblique.
Globalement, s'il y a deux, trois questions à se poser, en disant peut-être, est-ce que je peux aller voir un acupuncteur ou un homéopathe ? Sur quelle base est-ce qu'on peut se baser peut-être ?
Alors avec deux collègues, on avait organisé une conférence justement sur ce sujet des médecines alternatives. Et à force de réflexion, on a mis au point une sorte de méthode d'analyse, une grille d'évaluation que l'on peut appliquer à chaque médecine alternative. C'était ça vraiment son intérêt. Et donc on a développé un acronyme, pour un moyen mnémotechnique en fait, pour se souvenir de cette méthode d'analyse, et c'est l'acronyme PRATIC, P-R-A-T-I-C. Le premier, PR, c'est pour principe. Quels sont les principes sous-jacents à cette médecine ? À quoi est-ce qu'elle fait référence ? Quelle est sa vision du monde ? Deuxièmement, le A, pour attente. Qu'est-ce que cette médecine prétend soigner ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Le T, pour thérapeute. Qui pratique cette médecine-là et quelle est sa formation ? Le I pour impact spirituel. Est-ce que cette médecine a un impact spirituel, oui ou non, ou on ne sait pas. Et puis le C pour confiance. En quoi ou en qui est-ce que je mets ma confiance en ayant recours à cette médecine ?
En partant de là, est-ce que, donc on a parlé un peu du chamanisme tout à l'heure, est-ce que toutes les médecines alternatives sont bonnes pour un chrétien, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont catégoriquement non ? Est-ce qu'il y a des choses qui restent encore en suspens ? Vous, d'un point de vue purement médical, puisque vous êtes médecin, en quoi est-ce que vous croyez, presque, j'ai envie de dire, dans ces médecines ?
Alors l'objectif, c'est pas forcément de dire moi ce que je crois et ce à quoi j'aurais à titre personnel recours, mais plutôt d'éveiller le discernement chez les chrétiens, de se dire qu'il faut pas aller à l'aveugle, sans réflexion, sans discernement vers l'une ou l'autre de ces médecines, et bien se poser les différentes questions que j'ai évoquées pour savoir si oui ou non c'est compatible. Parce que pour certaines, on va dire oui, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de spirituel derrière cette médecine. Pour d'autres, on va se dire oui, c'est franchement spirituel ou c'est de l'occultisme, donc je ne veux pas y avoir recours en tant que chrétien. Et puis pour d'autres, eh ben, on est dans le flou, on est dans la zone grise, et c'est là où il faut faire appel au discernement, faire appel au Saint-Esprit pour qu'il nous donne sa sagesse, faire appel peut-être aux anciens de son église, aux pasteurs, à des médecins éventuellement, ou des personnes qui ont peut-être une plus grande connaissance du milieu médical, pour aider à discerner et à prendre une décision en ce qui concerne les médecines auxquelles on va avoir recours pour se soigner.
Quels sont les risques spirituels spécifiques de ces médecines alternatives que certaines peuvent avoir ? Est-ce que ces risques sont plus ou moins grands par rapport à une médecine traditionnelle qui n'est pas sans risque non plus ?
Le risque principal en tant que chrétien, c'est d'avoir recours à des forces occultes, je pense. C'est typiquement le cas quand on va voir un magnétiseur, quand on fait appel à un coupeur de feu ou que l'on pratique des rites chamaniques. Là, très clairement, c'est de l'occultisme et un chrétien ne devrait pas y avoir recours.
Prenons le cas de l'aromathérapie qui est très développée. Mm-hmm. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait une conférence avec une de vos consoeurs et une pharmacienne.
Tout à fait, Marion Bitoun.
Voilà, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Par exemple, voilà, en tant que professionnel de la médecine, est-ce qu'il y a des médecines alternatives comme celle-ci où vous dites « Ok, ça nous semble bon, ça nous semble clair ».
Pour prendre l'aromathérapie, c'est effectivement de l'extraction de matière végétale pour créer des huiles essentielles qu'après on peut soit prendre par la bouche, soit appliquer sur la peau, soit vaporiser dans l'atmosphère. Donc d'un point de vue strictement spirituel, je dirais aucun problème. À part qu'il y a une certaine frange de l'aromathérapie qui se veut une aromathérapie quantique ou énergétique et qui se propose d'agir sur nos chakras, qui serait un endroit le long de notre colonne vertébrale où serait situé notre esprit. Et là, très clairement, ça ne correspond pas à la vision biblique de l'être humain. Même sur certaines médecines alternatives qu'on pourrait penser anodines ou totalement inoffensives, il faut quand même être vigilant.
Les médecins, comme tous les individus, ont une spiritualité, qu'ils en soient conscients ou pas. À quel moment entre tel en jeu? Est-ce qu'elle rentre déjà en jeu quand un médecin exerce son rôle de médecin? Et comment est-ce qu'on peut y prendre garde?
Eh bien, c'est vrai, oui, effectivement, même lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, il a sa propre spiritualité et il va peut-être avoir une certaine vision de la maladie qu'il peut intégrer dans le cadre de croyances spirituelles. Et parfois, ça peut intervenir dans la relation de soins. Donc, il faut en être vigilant, effectivement, même lorsque l'on va voir son médecin généraliste. Et c'est peut-être d'autant plus vrai avec les médecines alternatives qui sont souvent fondées sur des visions du monde ou des visions de l'homme.
Par exemple, qu'est-ce qui peut nous alerter? Ou alors, à quel moment est-ce qu'une vision spirituelle des choses peut orienter tel ou tel médecin sur telle ou telle décision?
Très clairement, pour prendre l'exemple de l'homéopathie, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de spirituel derrière l'homéopathie, en tout cas, c'est que le médecin adhère à des intuitions, à des hypothèses qui correspondent à la médecine homéopathique. Donc oui, on peut se dire, tiens, il va un peu au-delà de la médecine scientifique telle qu'elle est enseignée à l'université, même s'il y a des diplômes universitaires d'homéopathie. Mais voilà, il fait appel à d'autres visions du corps humain, de la maladie et des moyens de traiter et de soigner avec lesquels on n'est peut-être pas forcément d'accord, nous, en tant que patients.
On parle de diplômes universitaires. Justement, dans quelle mesure est-ce que ces médecines alternatives, ces médecines parallèles sont intégrées ou pas, d'ailleurs, au cursus de médecin classique, j'entends, sans spécialisation?
Alors, elles ne sont pas intégrées dans notre cursus de base. Il n'y a pas d'enseignement à l'université dans notre cursus de base pour une formation de médecin, par exemple, sur l'hypnose, sur l'aromathérapie, la phytothérapie, l'acupuncture. C'est éventuellement cité en thérapie complémentaire sur certaines pathologies, mais sans plus. Après, il existe effectivement des diplômes universitaires pour pas mal de ces médecines alternatives, que ce soit l'acupuncture, la phytothérapie, l'hypnose, et on peut donc se former de manière académique en université à ces médecines-là. Mais c'est un choix personnel.
On parlait tout à l'heure de médecines alternatives complètement incompatibles avec la foi, que sont par exemple les magnétiseurs, toutes ces choses-là qui sont clairement spirituelles, d'autres qui ne posent pas forcément de soucis à première vue. Et puis il y a, comme vous le disiez, toutes ces médecines un petit peu dans la zone grise, où la doctrine semble incompatible avec la Bible. On peut parler de l'acupuncture par exemple, qui vise, alors je vais essayer de faire simple, à rétablir le ki dans le corps, c'est donc une vision énergétique du monde. Mais si le praticien n'a pas recours à des techniques occultes, finalement, qu'est-ce qui prime, la doctrine ou la technique du praticien?
Il faut tenir compte des deux. Typiquement, l'acupuncture, c'est un bon exemple. Cela fait appel à une doctrine qui est fondée sur l'idée d'un ki, qui est une énergie universelle de vie qui circulerait dans le monde, une sorte de force immanente, et ce qui circulerait dans l'être humain selon des canaux que l'on appelle les méridiens. Ça, c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise, telle qu'elle comprend le corps humain. Et on pourrait accéder à ces canaux à travers les points d'acupuncture. Et l'idée, c'est de planter des petites aiguilles sur ces points spécifiques qui permettraient de rééquilibrer l'énergie. Voilà quelle est la doctrine qui est sous-jacente. Nous, en tant que chrétiens, on croit que la source de la vie, c'est Dieu, et que ce n'est pas un qui impersonnel et immanent. Au niveau de la doctrine, ça pose problème. Après, qu'on me plante une aiguille à un endroit quelconque de ma peau, ça ne pose pas de problème. La technique ne pose pas de problème, mais elle fait appel à une doctrine qui pose question par rapport à la vision chrétienne du monde.
Et dans ce cas-là, finalement, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en tant que médecin, est-ce que le corps médical dirait « Je pense que vous pouvez y aller parce que finalement, si c'est un médecin qui a été formé en Europe, en France, il n'y a pas de côté spirituel » ou est-ce que c'est pas très cohérent dans ce cas-là malgré tout?
Tout dépend le critère que l'on utilise. Si on s'en tient à l'efficacité, on peut se tourner vers n'importe quelle médecine parallèle en disant c'est efficace, donc pas de souci, ça marche. Si on se prend comme filtre l'aspect scientifique, on va se dire est-ce qu'il y a des études scientifiques qui prouvent l'efficacité ou pas, ou est-ce qu'on a prouvé les principes qui sont sous-jacents. Tout dépend en fait le filtre que l'on utilise pour évaluer cette médecine.
Donc finalement, doctrine ou technique, c'est un point de vue purement personnel, de conviction ?
C'est ça. Je pense que moi, je renvoie vraiment à la responsabilité individuelle de chacun de réfléchir, d'évaluer et de se dire je suis pas d'accord avec cette doctrine. Peut-être que le praticien va pratiquer cette médecine indépendamment de la doctrine, mais est-ce que c'est cohérent d'avoir recours à la technique, sachant que je ne suis pas d'accord avec la doctrine ?
On a aussi de plus en plus de professionnels de santé qui ont plusieurs casquettes, kinés qui font aussi ostéo. J'imagine que ça peut aussi exister des ostéos qui doivent être, magnétiseurs ou ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait en tant que patient pour choisir un bon praticien ? Tout le monde n'a pas forcément écrit magnétiseur sur sa porte à côté. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de choisir un praticien en toute connaissance de cause ?
Il faut effectivement évaluer le thérapeute. C'est pour ça que dans l'acronyme que je vous ai proposé, pratique, il y a le T pour thérapeute, pour vraiment analyser qu'est-ce que fait vraiment le thérapeute. Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il prétend faire ? Alors regardez la plaque qui est inscrite en bas de l'immeuble. C'est intéressant effectivement s'il y a écrit ostéopathe et à côté magnétiseur. Alors la grande prudence, moi, j'irai pas le voir. Et puis après, il n'est pas forcément écrit sur sa plaque magnétiseur, et pour autant, il peut faire appel à du magnétisme. Donc, il peut y avoir des points de vigilance quand même à avoir et à toujours avoir son esprit critique activé lorsque l'on va voir un thérapeute, quel qu'il soit, y compris un médecin généraliste. Un médecin généraliste peut finalement faire du magnétisme et des choses très bizarres. Donc, après, il peut y avoir, typiquement, vous posez la question sur l'ostéopathie, un ostéopathe qui ne toucherait pas, par exemple, le corps, c'est pas possible. L'ostéopathe, il prend ses deux mains, il touche le corps, il fait des manipulations. S'il touche du bout du doigt ou qu'il ne touche pas, ce n'est pas un ostéopathe. Moi, je dirais fouiller, oui.
Parmi les autres grande médecine alternative qui a le vent en poupe en ce moment, on pourrait parler de l'hypnose. C'est de plus en plus répandu, même dans les hôpitaux. Le SAMU de Lyon, je crois, a commencé à le mettre en place, la clinique du Val d'Ouest, l'hôpital Femme-Mère-Enfant, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Bref, il y a déjà pas mal de structures qui le mettent en place. Contre la douleur ou pour les anesthésies, quel est l'impact spirituel de l'hypnose aujourd'hui ?
Alors, j'aurais pas de réponse tranchée sur la question de l'hypnose, c'est assez complexe. Peut-être qu'il faudrait déjà un peu dire ce que c'est que l'hypnose. L'hypnose, c'est induire en fait chez un patient un état de conscience altéré. Donc, c'est pas un état de veille, c'est pas un état de sommeil non plus. C'est un état de conscience entre les deux, dans lequel le patient est insensible aux sollicitations extérieures ou beaucoup moins sensible, où son attention est focalisée et où il est très sensible aux suggestions de l'hypnothérapeute qui peut lui suggérer des comportements, des pensées et qui peut modifier sa perception de la réalité. Typiquement, vous avez cité pour la douleur, c'est une sensation subjective, donc on peut très bien suggérer à la personne que la sensation qu'elle ressent n'est pas si douloureuse. Et quand la personne sort de l'état hypnotique, ce qu'elle ressent finalement, elle le ressent plus de manière douloureuse. C'est ça le projet, on va dire, de l'hypnose. Après, je note que c'est un état de conscience altéré, donc la personne n'est pas en pleine conscience, donc il y a une forme de vulnérabilité vis-à-vis du thérapeute, une possibilité potentiel de manipulation mentale de la part du thérapeute. Donc il y a quand même des points de vigilance en ce qui concerne l'hypnose.
Vous distinguez l'hypnose pratiquée par les centres médicaux dans le cadre par exemple de la douleur ou des anesthésies, d'une hypnothérapie ou de Mesmer aussi. Pour vous, ça reste aussi deux choses différentes.
Il y a différents degrés, effectivement. Typiquement, à l'hôpital, on va plutôt parler calmement à la personne, utiliser un vocabulaire plus positif, une voix un peu douce comme je suis en train de le faire, pour que la personne soit plus détendue. C'est des techniques hypnotiques, mais c'est pas de la vraie hypnose dans le sens que la personne n'est pas dans un état de conscience totalement altéré. Donc il y a effectivement des degrés un peu différents d'hypnose. Je pense qu'à l'hôpital, typiquement en pré-anesthésie ou pour le traitement de la douleur, c'est une hypnose light, on pourrait dire. Peut-être pas du même ordre que celle qui peut être pratiquée par un hypnothérapeute qui ferait que ça dans son cabinet en ville.
Est-ce que l'hôpital est coutumier de ce type de pratique ? Alors l'hypnose, oui, de plus en plus, mais de manière générale, de ces médecines alternatives ?
Oui, l'hôpital est de plus en plus perméable et ces médecines alternatives ont de plus en plus cours à l'hôpital, et quelle qu'elle soit, ça peut être de l'acupuncture pour traiter les nausées chez la femme enceinte, ça peut être l'hypnose en pré-anesthésie, ça peut être même les coupeurs de feu suite à une séance de radiothérapie pour traiter la brûlure qui est occasionné par les rayons qui sont utilisés lors de la radiothérapie. C'est pas officiel. Certains radiothérapeutes qui vont conseiller à leurs patients de passer voir un coupeur de feu ou d'appeler un coupeur de feu, il peut agir par téléphone pour soigner les sensations de brûlure que peut ressentir le patient.
Et ça, pour vous, ça rentre donc tout ce qui est coupeur de feu dans ce que vous appelez les médecines spirituelles, qui regroupent, j'imagine, le chamanisme, du coup, qui sont clairement un danger pour les chrétiens aujourd'hui?
Tout à fait, on peut le dire, les coupeurs de feu, c'est de l'occultisme. Ce sont des personnes qui ont reçu un don de la part, souvent d'un ancêtre, qui leur a transmis à un moment donné de l'année, souvent le 24 décembre à minuit, selon un certain rituel. Ce sont des formules magiques, la plupart du temps, qu'il faut réciter quand la personne a connaissance d'un patient qui aurait une brûlure. Il doit connaître la localisation de la brûlure, le nom de la personne, et à distance, il récite ces formules magiques. Et ça produit son effet.
Comment est-ce qu'on se situe quand des professionnels de santé à l'hôpital, par exemple, ça peut être ailleurs, nous proposent que ce soit l'hypnose, l'acupuncture, voire ces coupeurs de feu? Déjà, est-ce qu'on a le droit de dire non, je refuse ce genre de pratique?
Quel que soit le soin qu'on vous propose, y compris un soin médical, chirurgical, quel qu'il soit à l'hôpital, vous avez toujours le droit de refuser. Ça, c'est un droit du patient inaliénable, inscrit dans la loi. Donc oui, bien sûr, vous avez le droit de refuser. Également pour les médecines complémentaires pour lesquelles vous ne seriez pas d'accord.
Une médecine dont on n'a pas trop parlé encore ici et qui pourtant, pareil, comme l'hypnose a le vent en poupe, c'est la sophrologie. Est-ce officiellement une médecine alternative pour vous?
C'est difficile de classer la sophrologie parce que c'est une technique psychocorporelle mais qui est vécue comme une philosophie de vie. Donc ça va plus loin que juste la médecine alternative. Elle se propose vraiment d'être une philosophie de vie, tout simplement. C'est vraiment le projet de Caicedo qui en est l'inventeur, le fondateur, qui l'a développé au fur et à mesure des années, et elle est à mon sens en grande partie spirituelle, parce que quand on regarde les degrés de relaxation dynamique de la sophrologie, notamment les 4 premiers degrés, elles font appel au yoga, à la méditation bouddhique, au zen japonais, qui sont foncièrement spirituelles. Et la difficulté de la sophrologie, c'est que c'est un amalgame, c'est en fait un grand mix de plein de techniques différentes, que ce soit des techniques occidentale, la méthode Koué, la pensée positive, des techniques de relaxation et des techniques orientales comme la méditation bouddhique, le yoga, ce genre de choses. C'est pas un problème d'avoir recours à des techniques qui vont aboutir à une relaxation, aucun problème, c'est très très bien pour des patients stressés, je peux leur conseiller de faire des exercices respiratoires, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand ça se propose d'être une philosophie de vie qui propose en fait un bien-être spirituel, là, ça me pose question, parce que seul Dieu peut être la source de notre salut et de notre réconciliation avec lui et de notre bien-être spirituel.
Là encore, on en revient à la question de la doctrine et de la technique, puisque finalement, j'imagine que certains sophrologues vont dire que c'est absolument pas spirituel ou philosophique. C'est une question de choix personnel, de se dire en fonction de ce qui prime le plus pour nous.
Tout à fait, là, c'est vrai que j'ai émis un certain avis, mais la sophrologie, Caicedo va vous dire que la sophrologie n'est pas du tout religieuse, qu'elle respecte les convictions personnelles de chacun, mais vraiment, quand on regarde de détail, c'est fondé sur du yoga, sur de la méditation bouddhique, par exemple. Et nous savons que la méditation bouddhique et le yoga sont centrés sur l'homme, sur un développement personnel, sur une méditation centrée sur soi, alors que la méditation chrétienne est centrée sur Dieu, sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur Jésus principalement, et sur l'œuvre de Jésus à la croix. On est vraiment là dans une technique de développement personnel qui centre toute chose sur l'homme. Au niveau spirituel, ça me pose question.
En tant que médecin, vous, du coup, quelles sont les pratiques que vous pourriez recommander sans risque, clairement?
J'ai un joker, c'est compliqué parce que j'ai pas envie à cette antenne de donner un avis totalement personnel sur moi, à quoi est-ce que j'aurais recours. Il y en a un certain nombre où je pourrais dire que j'ai pas de problème à y avoir recours. Il y en a d'autres où je signifierais aux patients qu'on est un peu dans une zone grise, qu'il y a des éléments de vigilance à prendre en compte, typiquement l'hypnose. Et puis il y en a d'autres que je déconseillerais nécessairement, en tout cas à un patient chrétien, typiquement le rebouteux, le radiesthésiste, ceux qui utilisent le pendule, le magnétisme, qu'on a déjà plusieurs fois cité, les coupeurs de feu, le reiki également, qui sont profondément spirituels.
Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des informations sur internet? Est-ce que l'INSERM, par exemple, a des fiches qui pourraient alerter aussi ou faire un petit peu un compte-rendu de chacune de ces médecines?
Alors l'INSERM va... qui est un institut scientifique, ne va pas utiliser le prisme de la spiritualité pour évaluer chacune de ces thérapies. Elle va utiliser vraiment des considérations scientifiques. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qui prouvent l'efficacité? Elle peut émettre des avis de vigilance sur des possibles dérives sectaires ou des risques de vulnérabilité du patient, de manipulation du patient. Parfois, elle émet ce genre d'avis, mais elle ne va pas évaluer les choses d'un point de vue spirituel.
Est-ce que ces médecines alternatives sont toutes prouvées scientifiquement ? Est-ce que certaines le sont ?
Très peu, en fait, parce que d'un point de vue scientifique, on évalue les choses avec des méthodologies très spécifiques qui ne peuvent pas nécessairement s'appliquer aux médecines alternatives. Je prends l'exemple de l'hypnose. Une séance d'hypnose et une autre séance d'hypnose ne se passeront pas de la même manière. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut évaluer une intervention qui varie tellement selon le patient ? On ne va pas pouvoir évaluer l'efficacité, sachant que l'intervention diffère tellement d'un moment à l'autre.
Merci beaucoup, docteur Denis Blum, pour tous ces éclairages sur les médecines alternatives. Et puis j'encourage chacun à méditer, à réfléchir aussi là-dessus.
Tout à fait.
Merci.